كريمة ماتان فامي.
Et nous sommes donc en direct comme prévu avec Chimène Jbilo pour parler de la meilleure façon de se défaire du regard de l'autre. Chimène Jbilo, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour Karima, c'est moi qui vous remercie de votre invitation.
Tout le plaisir est pour moi, Chimène. Alors on en parle souvent, le regard de l'autre, le jugement qui des fois nous empêche d'avancer ou de réaliser certaines choses. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance à comment l'autre nous perçoit ?
Nous accordons autant d'importance au regard de l'autre parce que tout simplement nous avons été conditionnés depuis notre plus jeune âge à être attentifs à ce que l'autre pense de nous, à ce que l'autre nous renvoie. Vous savez, dès qu'on est, depuis notre plus jeune âge, quand on est enfant, tout petit, même quand on apprend les premiers pas, notre capacité à manger seul, toutes les petites choses qu'on apprend tout petit, on a toujours on est toujours accroché, attaché au regard de nos parents pour voir si on fait bien les choses ou pas. C'est quelque chose qui est assez naturel chez l'être humain. On a besoin d'être validé par l'autre pour savoir qu'on est sur la bonne voie. Et c'est compréhensible quand on est enfant. Je veux dire, quand on a 2, 3 ans, 4 ans, on n'a pas un autre repère, une autre référence que celle que nous présentent nos parents. Et donc, on a besoin de savoir si oui ou non on fait les choses correctement, si oui ou non, on est sur la bonne voie. Donc, ce n'est que ce regard-là qui nous donne la validation ou le check de voilà, tu es sur la bonne voie, tu fais les choses comme il faut, continue comme ça, avance comme ça. Et voilà, donc on est conditionné. Là, j'ai donné le premier exemple de l'importance du regard de l'autre pour soi. Mais il y en a d'autres au fur et à mesure des étapes de la vie, du développement de l'enfant à l'âge adulte, etc. Il y a énormément d'occasions où nous avons besoin forcément de ce regard pour nous rendre compte de notre du bien fondé de nos actions, qu'on est sur la bonne voie, tout à fait.
Et justement, quand on est petit, donc quand on est enfant, c'est un regard plutôt bienveillant. Le fait d'attendre un peu, en quelque sorte, la validation des parents, etc., c'est plutôt bienveillant. Mais en grandissant plutôt, et avec le passage des années, ça prend des proportions plutôt, des fois, malsaines. Et ça nous empêche même d'avancer dans nos propres projets. Comment, justement, essayer de faire barrière ou juste prendre, par exemple, savoir faire le tri? C'est-à-dire la critique, par exemple, constructive ou le regard bienveillant et l'autre, au contraire, qui est un peu, qui nuit à notre épanouissement. Comment on peut faire la différence entre les deux et ne pas laisser justement cet aspect négatif prendre de l'emprise sur nous et sur nos décisions?
Alors, je vais me permettre de revenir sur ce que vous avez dit là, parce que c'est très, très intéressant. Vous avez parlé de regard positif, ou comme vous l'avez appelé, bienveillant, et un autre plutôt, on va dire, déprimant, on va oser dire déprimant à sa fin. Donc, dans les deux cas, vous avez situé les deux à différentes étapes de la vie. C'est-à-dire, quand on est tout petit, il est plutôt bienveillant. Quand on va au fur et à mesure de notre développement, plus on va grandir et plus le regard va être pas malveillant, mais en tout cas critique, un regard de jugement, un regard qui se permet de nous écraser des fois, de nous stopper dans nos élans. Donc moi, ce que je voudrais apporter comme éclaircissement là-dessus, c'est que le regard positif et le regard négatif sont toujours là, du plus jeune âge. C'est-à-dire que même en étant enfant, on va pouvoir avoir des regards plus ou moins négatifs, dans le sens où certains parents, pas parce qu'ils veulent mal faire ou parce qu'il y a de la mauvaise foi, au contraire, c'est juste parce qu'ils partent du principe qu'ils savent exactement ce qu'il faut à leur enfant. Je ne parle pas des toutes premières années, je ne parle pas du stade bébé ou du stade vraiment petite enfance. Je parle de quand on commence à se développer vers les 6, 7 ans, 8 ans, vers l'adolescence aussi. Alors, les parents vont avoir un regard plutôt positif. Et ils vont vouloir ils vont avoir des projets sur leurs enfants. Pas pour leurs enfants, mais sur leurs enfants. Donc, ils vont peut-être avoir un regard positif, mais ce n'est pas forcément le regard qui renvoie le vrai reflet de cet enfant. C'est-à-dire, même si ce regard est positif, moi, enfant, je vais y voir quelque chose qui est certainement résultante d'une bonne foi, mais qui ne me convient pas, qui ne colle pas à mon état, à mes attentes, à mes rêves personnels. Donc, je voulais juste vraiment faire cette apporter cette lumière sur cet élément-ci, et aussi dire que au fur et à mesure du temps, on va avoir autour de nous des regards, comme j'ai dit, positifs et négatifs. Et dans les deux cas, que ce soit les regards positifs ou négatifs, l'important c'est de ne pas prioriser ces regards, ce regard de l'autre, ne pas le mettre devant celui qu'on porte nous-mêmes sur notre personne. Parce que c'est le danger, il réside à ce niveau-là.
C'est vrai.
Si je commence à prendre pour de l'argent comptant ce que les autres me renvoient, je suis en train d'accepter et d'acheter leur propre prisme. Alors je m'explique. Le prisme, c'est cette façon, ces lunettes qu'ils portent et qui sont constituées de leur histoire, de leurs repères, de leur paradigme, de leurs valeurs, qui ne sont pas mes propres valeurs, mes propres paradigmes. Donc j'achète et du coup je deviens quelque chose comme un acteur d'un scénario que je n'ai pas écrit. Que ce soit en suivant le regard positif ou en suivant le regard négatif. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le regard de l'autre est totalement prohibé à 100%. On a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes conditionnés depuis notre plus jeune âge à être attentifs au regard de l'autre. Il n'y a aucun problème à cela. Le problème réside essentiellement dans le fait de prendre ce regard et en faire un principe de base. C'est-à-dire, je n'avancerai pas si je n'ai pas l'approbation d'un tel, si je n'ai pas l'acquiescement d'un autre, si je n'ai pas le feu vert de telle personne ou de telle autre. Là, vraiment, je me condamne à vivre la vie de quelqu'un d'autre.
Exactement.
Ou de plusieurs autres personnes. Donc, je renonce à ma propre identité. Et c'est là où réside réellement le danger.
C'est se définir justement à travers le regard de l'autre.
Tout à fait. On se définit à travers le regard de l'autre et on devient quelque part très, très détaché de notre propre personne, de nos propres rêves, de nos propres objectifs et donc très éloigné de notre bonheur, de la quête de notre bonheur. Donc, on se condamne à être triste ou à être malheureux toute sa vie.
Exactement.
Et ça, c'est malheureux.
Bien sûr.
Voilà, je me suis répétée, mais c'est vraiment le cas. On est tellement éloigné du bonheur qu'on ne peut plus prétendre à avoir la vie qu'on mérite.
C'est vrai. Tout ça parce qu'on a laissé justement ces regards prendre de l'emprise sur nous. Et Imane Djibilou, comment on fait justement, pratiquement en quelque sorte, s'il y a des petits tuyaux comme ça qui peuvent aider à se défaire de ce regard de l'autre ? Ou à ne pas le prendre justement avec autant de... pas lui donner autant d'importance en quelque sorte ?
Alors si on doit résumer en fait l'astuce principale à une phrase... ce serait surtout de réellement être conscient du regard que j'ai sur moi-même. C'est-à-dire que, vous savez, le regard de l'autre, il ne peut être déprimant, assassin, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si moi-même j'ai un regard ébréché sur
c'est
moi-même.
Vrai.
Si j'ai un regard plutôt négatif sur mon image, sur ma légitimité, sur mes qualités, sur mes défauts, si je suis quelque part dans un doute par rapport à ce que je représente, par rapport à ma propre valeur. Donc la première des choses, et là c'est vraiment pour donner un titre, après je donnerai quelques astuces.
D'accord.
Mais pour donner un titre, la première des choses, c'est de se dire, attention, il faut d'abord que je sache quel regard je porte sur moi-même. Est-ce qu'il est réellement un regard bienveillant ou est-ce que je suis dans l'autocritique permanente qui fait que je me jette des pierres au quotidien, à chaque heure, à chaque moment. Donc d'abord se poser cette question. Ensuite, à ce moment-là, se dire, attends, si j'ai vraiment une idée de ce que je suis, si j'arrive à me considérer telle que je suis réellement, là, je prends, je commence par prendre la responsabilité de mon bonheur. Mmh. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir, certainement Kalima, qui sont venues me voir aussi, qui vous disent, dans votre entourage probablement, qui viennent vous dire, mais j'ai épousé cet homme, j'ai attendu qu'il fasse mon bonheur, je lui ai tout donné et je voulais qu'il fasse mon bonheur et ça ne s'est pas fait. Et après, ces mêmes personnes vont, à défaut d'avoir le bonheur ramené par leur conjoint, vont projeter cette attente sur leurs enfants.
C'est vrai.
Et ils seront toute leur vie dans une quête où ils attendent que le bonheur leur soit offert par quelqu'un d'autre.
De l'extérieur, alors que ça vient de l'intérieur en quelque sorte. Ça vient de nous.
Alors donc, on va dire que la première étape serait justement de prendre la responsabilité de notre propre bonheur. Se dire que personne n'est capable de faire mon bonheur. La seule personne qui est capable de faire mon bonheur, c'est moi-même. Donc, il va falloir que j'œuvre pour y arriver, que je me mette en action pour atteindre ce niveau de bonheur que je mérite. Donc, alors ça serait une première étape. Excusez-moi, peut-être que vous vouliez rajouter quelque chose.
Voilà, c'était juste une confirmation, encore une fois, du fait que tout vient de nous, finalement. Tout émane de nous. On n'a pas forcément besoin d'attendre que ça vienne de l'extérieur, que ce soit le bonheur ou voilà, tout plein d'autres valeurs ou d'autres concepts en quelque sorte.
On est à l'origine de tout ce qui nous arrive. Et il faut qu'on finisse par prendre la responsabilité d'assumer nos actions et d'assumer ce que nous recevons comme cadeau de la vie. Parce qu'on est dans une action et on a des retours de la part de la nature, de la vie, de ce qui nous entoure. Donc il faut qu'on finisse par prendre cette responsabilité et l'assumer.
Tout à fait.
Alors, le deuxième tuyau, hein, comme vous l'avez dit, donc ce serait... J'ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir une image ou plutôt un regard sur soi qui soit plutôt clair, assez propre, net. Et il faut surtout qu'on renforce notre estime de soi. Je veux dire, nous avons tous derrière nous des réalisations, des fiertés, des choses que nous avons pu accomplir. Il faut que nous soyons connectés à toutes ces étapes positives de notre vie. Ces états positifs dont j'ai parlé vont faire qu'on va avoir une sorte de bilan positif qui est capable de nous de renforcer au quotidien notre estime, de nous connecter à nos qualités, à nos valeurs et par la même occasion de nous permettre au quotidien d'en faire preuve. C'est-à-dire que ça devient plus des concepts, des thématiques globales, mais plus des actions applicables au quotidien. C'est-à-dire chaque valeur que nous vantons de porter va prendre forme sous une action, sous un comportement, on va vraiment matérialiser toutes les bonnes choses que nous portons en nous, que ce soit des qualités, des valeurs, des principes, tout ce que nous portons de bon en nous sera vraiment visible de l'extérieur. Et c'est ce qui va nous permettre de renforcer davantage notre estime de soi.
Merci beaucoup, Imenj Bilo. C'est sur ce beau conseil que se referme notre échange. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain pour un nouveau sujet. Inch'Allah, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.